Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, ce sont des mots qui sont signés Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, des mots de clarification dans le dossier des relations entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. Le Maroc n'a pas de problème avec l'Union européenne, déclare Nasser Bourita sur une radio française. En revanche, précise le ministre, il a un problème avec l'Espagne qui touche à ses intérêts suprêmes et c'est à ce pays, à l'Espagne donc, de trouver une solution. Évocation est ici faite du dossier de Ghali, qui est le chef séparatiste du Polisario, actuellement hospitalisé en Espagne sous une fausse identité. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes aussi après toutes ces arrestations. C'était vendredi dernier, au moins 900 Algériens ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils voulaient manifester pour le 118e jour de la marche du Irak. Les forces de sécurité les en ont empêchés. Ils ont donc été arrêtés. Mais où sont-ils? Certains ont été libérés, d'autres pas. Lanceur d'alerte, Nourdine Tounsi, aurait arrêté de s'alimenter. C'est en tout cas ce que disent les avocats du collectif de défense de tous ceux qui sont allés dans la rue vendredi dernier et qui n'ont pas pu manifester depuis plusieurs semaines. Les manifestations sont empêchées par le pouvoir, à la fois celle de mardi, initialement prévue pour les étudiants, et celle de vendredi qui concernait l'ensemble de la population algérienne. Sur le terrain judiciaire, toujours en Algérie, le général-major Wassini Bouaza n'est plus. Il vient d'être démis de ses fonctions. Il serait passé devant le conseil de discipline militaire. Ce sont nos confrères de Al-Watan qui révèlent ceci. Une sanction a été décidée, proclamée pour cassation de grade et remise au rang pour donc ce soldat qui n'est plus aujourd'hui général adjoint. Lui sont reprochés des actes d'enrichissement illicite, de trafic d'influence ainsi que d'infraction aux consignes de l'armée. Et pendant que la justice proclame des sentences, pendant que les forces de sécurité algériennes interdisent à la population de pouvoir s'exprimer librement, eh bien le chef d'état-major d'armée, Saïd Chanegria, 75 ans, lui dit qu'il réussit à lutter contre des cyberattaques qui attaqueraient actuellement l'Algérie. Alors il n'apporte pas de précision, on ne sait pas exactement qui attaque quoi en Algérie. Mais en tout cas, lui, il estime être de ceux qui sont en capacité de dire qu'il protège le pays en faisant face à des cyberattaques venues d'on ne sait où. La Tunisie et le Covid-19, le Covid-19 et la Tunisie, décidément la campagne de vaccination est à la fois très difficile, elle est aussi totalement disparate parce qu'il y a quand même des quartiers dans la ville de Tunis où ça se passe bien, il y a quand même des efforts qui sont faits par les autorités gouvernementales et puis par ailleurs il y a des couacs tout à fait incompréhensibles, par exemple celui-ci mais qui est révélateur, même si ça reste un micro-événement, c'est très révélateur de la désorganisation du process sanitaire aujourd'hui en Tunisie. Par exemple, on a aujourd'hui des professionnels de santé qui ont refusé de vacciner des enseignants. Pourtant, les enseignants sont prioritaires dans le sens où ils sont en contact avec des enfants, donc c'est important qu'ils ne soient pas malades, mais malgré tout, les professionnels de santé, cela s'est passé à la Manouba, ils ont refusé de vacciner des enseignants, ce qui a bien évidemment créé l'émoi que l'on peut deviner. Par ailleurs, on peut signaler que le syndicat des ingénieurs a publié un appel à la manifestation, ce sera pour jeudi prochain, les ingénieurs qui réclament des améliorations de leur statut salarial. Il n'en revient pas, Mohamed Ali Sidi Mohamed, c'est le nouveau patron de la zone franche de Ouadibou, alors qui est une zone importante hein, parce que c'est une zone sur laquelle le pays investit pour pouvoir créer de la richesse, créer des emplois, créer du dynamisme économique. 6 mois après sa prise de fonction, eh bien, le nouveau patron de la zone franche parle de dysfonctionnement, je cite ces mots, inimaginable et surprenant. Alors effectivement, il a fait des déclarations assez édifiantes, faisant état de taxes qui n'ont pas été payées, d'inexistence quelconque d'investissement sur des lieux et des espaces qui ne sont pas réglementés ou en tout cas qui ne sont pas correctement organisés pour pouvoir procéder aux travaux qui sont toujours dans l'attente, à savoir la construction d'un port en eau profonde ainsi que d'un aéroport aussi important pour pouvoir créer un monde des affaires sur la ville de Nouadhibou. On aurait bien besoin, mais malgré tout, il y a vraiment beaucoup de difficultés pour pouvoir réussir à lancer ce projet de zone franche en Mauritanie. Il y a les idées, il y a les mots, et puis parfois il y a les images qui en quelques secondes résument la complexité d'une situation. Ces images ont été grandement partagées sur les réseaux sociaux. Cela s'est passé dans le sud du pays, en Libye, dans la ville de Mourzouk. Simplement, c'est un gang, une rébellion, une katiba, un groupe armé, on ne sait pas trop, en tout cas des hommes en armes que l'on voit très clairement en train de menacer les familles de la ville, de les tuer, de les déplacer dans d'autres régions. Alors on ne sait pas exactement les raisons qui ont conduit ces jeunes armés comme ça à menacer des populations civiles qui n'y sont absolument pour rien et qui sont dans une demande toute simple, c'est de pouvoir vivre tranquillement. Cela témoigne bien de ces gangs, de ces mercenaires étrangers qui sont toujours en Libye, qui ne savent pas quoi faire. Certains n'ont pas été payés, alors ils se nourrissent auprès des populations civiles, ils volent, ils menacent. Et cela dit, la problématique dans ce pays, la Libye, qui est celle des mercenaires au sud, là c'est le cas de Mourzouk, mais également à l'est et à l'ouest du pays, sachant qu'il faut toujours le dire et le rappeler, la totalité des organisations internationales et des puissances amies de la Libye n'ont de cesse de dire qu'il faut ordonner le départ des troupes étrangères, des mercenaires, ainsi que la dissolution des milices armées. Sinon, comment faire pour sortir de la guerre civile? Sinon, comment faire pour entamer le plus vite possible les travaux de reconstruction nationale? Le nouveau ministre aux Affaires économiques vient de publier un premier chiffre. C'est une estimation générale de ce que pourraient être les travaux s'ils étaient engagés aujourd'hui. 134 milliards de dollars, et ceci sur 10 ans. Un chantier absolument, absolument colossal. Il est sûr que les recettes pétrolières du pays n'y suffiront pas. Il faut aider la Libye non seulement à pouvoir aboutir à un processus politique apaisé, mais aussi pouvoir lancer le plus vite possible ces travaux de reconstruction, sachant que dans des villes comme Tripoli, il y a toujours des coupures d'eau, il y a toujours des coupures d'électricité, ce qui irrite, agace et exaspère totalement les populations. Direction l'Afrique, avec ses opérations d'entraînement, ses exercices militaires, les forces égyptiennes sont arrivées au Soudan. L'objectif est de participer à un exercice militaire appelé les protecteurs du Nil. En soi, rien que le titre dit la portée de ces exercices. Il s'agit pour Le Caire et Khartoum de travailler ensemble. Dans ce climat de tension relative, va-t-on dire, puisque les Éthiopiens continue aujourd'hui encore à remplir le barrage du Nil, ce qui inquiète grandement l'Égypte, dont 95% des ressources en eau dépendent du Nil, ainsi que le Soudan qui est ô combien dépendant de ses eaux. Alors, à l'aune de cette crise concernant le partage des eaux de ce grand fleuve, il y a eu un rapprochement entre Le Caire et Khartoum. Ce n'est pas la première fois que des exercices militaires ont lieu. On se souvient qu'il y a eu au mois d'avril des exercices aériens qui, cette fois-ci, s'appelaient Night Eagles 2, également avec le Soudan. Et là encore, c'était un scénario quasi similaire, à savoir l'Égypte et le Soudan face à un ennemi. Alors aujourd'hui, les autorités du Caire ont entamé une véritable diplomatie sur la base de ce dossier conflictuel des eaux du Nil. Une diplomatie qui va très profondément en Afrique jusqu'en République démocratique du Congo, puisque les Égyptiens ayant une expérience millénaire, va-t-on dire, de la gestion des eaux capricieuses d'un grand fleuve comme le Nil, eh bien, les Égyptiens aujourd'hui ont commencé à travailler en République démocratique du Congo sur un projet de barrage, de gestion des eaux du fleuve Zaïre, de telle façon à ce que cette ressource soit exploitée au mieux. Donc une présence égyptienne, somme toute assez nouvelle dans cette région de l'Afrique des Grands Lacs, mais qui témoigne quand même que aujourd'hui les autorités du Caire cherchent des points de relais, des soutiens politiques, diplomatiques dans cette partie de bras de fer qui oppose le Caire aux autorités d'Addis Abeba. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres.
mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.